Le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 mai 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Et nous sommes toujours en direct du Paris Expo Porte de Versailles Hall 6 pour vous faire vivre la 28e édition du Salon de la MIF, l'Association des maires d'Île-de-France. Nous sommes ravis de pouvoir vous faire vivre l'événement au travers des invités qui viennent nous rejoindre autour de cette table. Et m'a rejoint justement Gilles Babinet. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes un serial entrepreneur, 8 entreprises j'ai noté à votre actif. Vous êtes également coprésident du Conseil national du numérique, membre du comité de l'intelligence artificielle générative également auprès du Premier ministre. J'ai bien résumé ?
Tout à fait, c'est parfait.
Bon, c'est quoi les enjeux de ce comité de l'IA générative ?
C'est le constat assez simple que l'intelligence artificielle va probablement faire un changement quasi civilisationnel et que les nations doivent s'organiser par rapport à ça. Et la France met en place une stratégie qui, dans une certaine mesure, essaye d'être ambitieuse.
On est sur un secteur de pointe concernant l'IA en France ?
On est parmi les meilleurs au monde. Ouais. C'est assez étonnant. On est capable de créer vraiment des gens qui sont à la fois des très très bons scientifiques, du fait des mathématiques et du fait d'une peut-être une forme de logique de déduction cartésienne, quelque chose d'assez particulier. Donc on a cette expertise qui est très très forte et puis on a aussi un bon cadre applicatif, c'est-à-dire qu'un certain nombre de start-up qui mettent en œuvre ces technologies qui montent assez vite comme Mistral.
Alors le Conseil national du numérique contribue à des publications, également des rapports dont le fameux rapport Schuman sur l'Europe. L'objectif là concrètement c'est quoi aussi ?
Ce rapport en particulier, oui. Écoutez, l'une des choses que l'on met en évidence, c'est le fait que la dimension européenne est fondamentale pour le développement du numérique. À l'échelle nationale, on n'y arrivera pas. Je pense qu'il y a des élections prochainement. Oui. C'est pas que je vais être excessivement partisan.
Non, bien sûr.
Mais je crois que c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que ce qui fait la force des États-Unis, dans une certaine mesure aussi de la Chine, mais aussi des pays satellites des États-Unis comme la Corée ou Israël, c'est l'accès aux capitaux. Tel que c'est aujourd'hui structuré, on a peu d'accès aux capitaux parce qu'on n'a pas d'Europe assez intégrée. Et donc c'est pas moins d'Europe qui nous font, c'est plus. Désolé de faire cette petite parenthèse politique, mais
non, c'est une conviction forte. C'est bien de la faire justement. Si on s'intéresse véritablement aux missions du Conseil national du numérique, qu'est-ce qu'on mettra en avant ?
Le Conseil national du numérique a été fondé pour conseiller le gouvernement. Voilà. Mission numéro 1, c'est celle-ci. Mais il se trouve que depuis quelques jours, le président de la République nous a assigné une deuxième mission pour laquelle on a beaucoup travaillé, d'ailleurs beaucoup milité, c'est le fait de créer un débat national sur la thématique de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle les cafés IA, parce que, comme vous le constatez, comme je le constate, comme tout le monde le constate, il y a beaucoup de peurs qui sont véhiculées par cette technologie.
À juste titre ou pas ?
Non, c'est tout à fait infondé, et on a eu ces peurs pour toutes les grandes technologies,
d'accord,
systématiquement, avec des raisons différentes à chaque fois. Donc cette fois-ci, c'est différent parce que c'est une technologie cognitive, c'est ce qu'on m'explique.
Ouais.
Mais en réalité, ce n'est pas une technologie pour autant immaîtrisable. C'est une technologie qu'on comprend, qui s'améliore sans cesse. Et le fait d'avoir des risques structurels dans la technologie est une erreur. C'est faux, en fait.
Il y a trop de science-fiction autour de ça ?
Il y a incroyablement beaucoup de science-fiction. Il faut dire que ça fait très longtemps qu'on parle de machines conscientes, entre guillemets. Et donc tout ça ressurgit soudainement à cet égard. Mais si vous voulez, je comparais l'autre jour ce que l'on peut faire aujourd'hui, ce que l'on saura faire dans une perspective de 5 à 10 ans et la science-fiction. Et je peux vous dire, on est encore assez loin de ce qui est décrit dans la science-fiction. Je dirais même très loin.
Vous en pensez quoi de ChatGPT ?
Je pense que c'est remarquable. C'est remarquable par la simplification que ça a apporté. Ça a simplifié le... Vous et moi, on comprend ce que c'est que l'intelligence artificielle de ce fait. Et c'est souvent les grands inventeurs, les Henry Ford, les Steve Jobs et les Sam Altman, ce sont les gens qui, c'est pas eux qui ont inventé la technologie, c'est eux qui l'ont simplifiée.
Et pour celles et ceux qui ont peur, peut-être à juste titre, de perdre leur emploi ?
C'est pas à juste titre, c'est-à-dire qu'il y a probablement des emplois qui vont disparaître.
Mais il y en a d'autres qui vont être créés, c'est ça ?
Alors il y en a beaucoup qui vont être créés, mais surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que structurellement, on considère que le développement de l'innovation détruit entre, suivant les sociétés, suivant les pays, entre 1 et 3% des emplois par an. Et là, on pense qu'on va probablement monter à 4, peut-être 5. Donc, vous voyez qu'il faut quand même raison garder à cet égard. Donc, évidemment, si vous êtes traducteur, c'est pas terrible à cet égard. Et puis, demain, si vous êtes chauffeur de taxi, ça sera peut-être pas une bonne chose. Mais quand je peux vous énoncer des dizaines de métiers qui n'existent pas, qui vont être créés du fait de l'intelligence artificielle.
Alors, vous allez participer tout à l'heure à une conférence sur les opportunités offertes justement aux collectivités par l'intelligence artificielle. Effectivement, c'est là l'intérêt aussi, c'est de voir que l'intelligence artificielle apporte ou crée en tout cas des opportunités. Et c'est le bon endroit pour en parler, évidemment.
Oui, en fait, dans la sphère publique et territoriale en particulier, les opportunités sont énormes. Les missions que doivent remplir les maires et puis l'ensemble des acteurs territoriaux sont de plus en plus vastes et c'est très difficile de remplir. Je prends un exemple qui est le sujet de la dépendance. Mmh. L'intelligence artificielle, ça peut être extrêmement efficace pour détecter quelqu'un qui commence à avoir des pertes de vigilance ou des pertes d'équilibre. Ça, ce sont des choses qui existent déjà à cet égard pour faire en sorte que les gens puissent énoncer les symptômes qu'ils ont de façon plus compréhensible par une machine qui puisse les monitorer tout au long de l'année plutôt que uniquement quand le médecin vient. Donc toutes ces choses-là vont permettre, à mon sens, de redynamiser les politiques publiques de territoire.
Pourquoi c'est important que vous soyez là aujourd'hui ? Alors évidemment, il y a la conférence, mais de manière générale.
C'est important parce que je pense qu'en France, qui est un État où on est très soucieux de solidarité, il faut faire passer le message que l'IA, c'est pas forcément celle des Américains. C'est pas forcément un truc mercantiliste qui est essentiellement tourné vers le profit, etc. Et qu'il y a d'autres formes d'IA, mais il faut les écrire. Et pour le moment, si les gens sont assez réticents, c'est qu'ils voient bien que les promesses qui nous ont été faites n'ont pas été tenues en large partie parce qu'elles ont été accaparées par quelques-uns. Et donc on voit effectivement ces très très grandes plateformes qui nous rendent des services tous les jours, qui posent tout un tas de questions justement sur les enjeux de solidarité et sur d'autres enjeux également. Et je pense que nous avons, notamment parce qu'on a cette expertise très très forte, la capacité de nous emparer de cette technologie.
Et en quoi finalement la collaboration entre secteur public et privé peut justement favoriser l'innovation et le développement de solutions qui servent à tous ?
Les écosystèmes qui fonctionnent, si vous observez la Silicon Valley, c'est généralement un écosystème dans lequel vous avez plusieurs acteurs. Vous avez les start-up, les grandes entreprises, les universités. Ça, c'est les trois principaux acteurs autour de ça. Et vous avez aussi le régulateur, c'est-à-dire celui qui fait la loi, mais aussi Palo Alto, c'est une des mairies les plus connectées au monde et qui est souvent une démonstration de ce que l'on peut faire avec la technologie à l'échelle d'une commune qui n'est pas très grande en tant que telle. Donc c'est important de mettre ces acteurs-là ensemble.
Comment promouvoir, et c'est peut-être aussi votre rôle, j'en sais rien, la confiance finalement chez les citoyens envers l'IA ? Parce qu'effectivement, on le disait tout à l'heure, il y a cette défiance.
Le seul moyen de créer de la confiance, c'est de faire en sorte que ce soit notre IA. C'est-à-dire que plutôt que de manipuler des boîtes noires, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas très bien qui est derrière, c'est de faire en sorte qu'on crée, à la fin, je pense à long terme, des nouvelles formes d'institutions qui soient très transparentes et notamment dont les citoyens soient d'une certaine manière les garants. C'est-à-dire, moi je milite pour qu'on crée une forme de corps citoyen, de développeurs, et qui seraient des gens qui garantiraient finalement le fait qu'il n'y ait pas de biais dans ces technologies.
Les élus que vous pouvez être amenés à rencontrer par exemple sur un salon comme la MIF, ils sont frileux, ils sont enthousiastes à l'idée d'utiliser l'IA ?
C'est très variable. La plupart des gens qui sont ici ou que je rencontre sont souvent des gens qui sont favorables à l'IA parce qu'ils ont demandé à me rencontrer, notamment parce qu'ils sont intéressés à ça. Et ce que l'on essaie de faire, c'est d'aller rencontrer les autres. C'est plus difficile. Ouais. Moi, je le fais de temps en temps quand je vais dans les territoires et c'est toujours passionnant.
C'est quoi les points de blocage en fait ? Qu'est-ce qu'on vous met en face ? Qu'est-ce qu'on vous dit en fait ?
Les deux questions principales, c'est est-ce que ça va me piquer mon job et est-ce que ça va me faire du mal ? D'une manière ou d'une autre, sous différentes formes.
Ouais.
Ça, c'est vraiment les deux grandes questions. C'est les facteurs d'inégalité font partie de la deuxième question et on essaie d'expliquer un peu comment ça fonctionne. Moi, j'ai des débats vraiment parfois très tendus, mais aussi vraiment intéressants.
Pourquoi très tendus ?
Mais parce que parfois, ça commence mal. Moi, j'ai fait des débats où j'étais littéralement agressé au début des débats.
Ah, carrément ?
J'ai le souvenir de ça. Alors, pour être tout à fait vrai, c'était sur la 5G.
Okay.
Mais je pense qu'on pourrait avoir la même chose aujourd'hui.
Bon, en tout cas, vous n'êtes pas senti agressé là?
Pas du tout.
Vous êtes le bienvenu. Un grand merci, Gilles Babinet,
d'être passé
nous voir. Bonne continuation, bon salon, bonne conférence. Merci également à vous de votre fidélité. On vous fait vivre en direct la 28e édition du Salon de la MIF. Toutes ces émissions, vous pouvez les retrouver également en replay, en podcast. Merci et à très vite.
Le Salon à MIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 mai 2024 à Paris Expo, porte de Versailles, sur Radio Imo et Radio Territoria.